Seigneur, je te remercie pour le temps de partage de ta parole. Je te remercie pour ton esprit qui est là, qui remplit nos cœurs de ta joie, de ta paix. Merci de la communion fraternelle. Merci pour les frères et sœurs, mais merci aussi pour ta présence au milieu de nous. Continue ton œuvre, parle à nos cœurs par ta parole et grave cela dans notre esprit, dans notre cœur. Puis qu'on garde la foi que tu es là, tu es autour de nous, tu prends soin de nous. Merci de ce que tu veux faire dans nos cœurs ce matin, dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pars une autre petite série d'études, c'est juste sur 7 messages en ligne, qui sont comme 7 lois spirituelles. 7 lois spirituelles, c'est comme 7 vérités fondamentales sur lesquelles les chrétiens basent leur foi, puis qui nous permet de marcher dans le chemin pour qu'on aille dans le paradis. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent y aller au ciel, dans la vie éternelle, dans le paradis? Tout le monde veut y aller. Il y a même des chansons dans le monde. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de mourir pour aller au ciel. On a besoin de vivre. De vivre pour celui qui va nous ouvrir la porte. C'est qui va nous ouvrir la porte? C'est Jésus. Amen. Aujourd'hui, la première loi spirituelle qu'on doit baser notre foi, frères et sœurs, c'est que le salut, puis même toute notre relation avec Dieu, on doit comprendre que c'est à cause qu'il nous aime, qu'il nous donne cet accès-là à tout ce qu'il a promis. Dieu est amour, puis Dieu aime ses créatures. Je sais qu'on n'est pas toujours aimable, faut l'avouer. C'est à cause de cela qu'on a besoin de la grâce, parce que sinon, si on serait tous des aimables, puis qu'on n'aurait pas besoin de Jésus pour être pardonné, on aurait tout rentré. Mais la base du salut qui est offert, c'est parce que, premièrement, Dieu nous a aimés. Il veut nous faire comprendre cette vérité-là. La première vérité qu'une personne doit comprendre, c'est premièrement qu'il y a-tu un Dieu qui existe. Puis quand tu sais qu'il est là, qu'il y a un Dieu qui existe, de savoir que ce Dieu-là t'aime. Qui aime ça, se faire dire que je t'aime? Qui aime pas se faire dire je t'aime? Ben, c'est vos mains. Tout le monde veut se le faire dire qu'ils sont aimés. Dieu a créé la nature humaine comme ça, comme Dieu lui aussi est amour. Il a créé l'homme à son image, il a mis dans nos cœurs de l'amour, puis on aime aimer, puis on aime être aimé. Ça, ça fait partie d'une vérité qu'on a besoin de comprendre, que Dieu nous aime aussi. Ça, on le voit pas tout le temps, on s'en rend pas compte. Puis Dieu nous aime, puis il y a un plan merveilleux pour notre vie. Dieu veut intervenir dans ma vie, puis il veut intervenir dans vos vies. C'est la première vérité qu'on a à comprendre, c'est celle-là qu'on va regarder dans plusieurs passages. Dieu, il a des projets pour chacun de vous. Ça nous dit dans Jérémie 29, le verset 11. C'est Dieu qui parle. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Les projets que Dieu veut nous donner, frères et sœurs, c'est dans le but de nous donner un avenir. Dieu, il a une vision à long terme. Il veut pas juste qu'un jour qu'on ait compris, il m'aime, puis ça s'arrête là. Cette relation d'amour-là, Dieu a fait des projets pour nous dans la cause qu'il nous aime, puis c'est un avenir puis une espérance pour l'éternité. Dieu veut nous amener dans la vie éternelle. Puis il y a des projets à long terme, mais il y a des projets qui commencent aujourd'hui. Lorsque tu commences à réaliser l'amour de Dieu, lorsque tu commences à y goûter, tu commences déjà à profiter des choses que Dieu a préparées pour toi. Mais faut que tu y crois. Parce que si tu ne sais pas que Dieu a quelque chose pour toi, tu n'y demanderas pas. Mais quand tu l'apprends que Dieu t'aime, puis que Dieu a un projet pour toi, puis Dieu y connaît ses projets qu'il y a pour ta vie, puis on va voir qu'il y a des versets qui nous parlent, même avant qu'on soit au monde, Dieu avait des projets pour notre vie. Mais quand on le réalise, on veut juste dire, « Seigneur, prends ma vie, je veux intégrer ton plan. » C'est pas une question d'accomplir nos plans puis nos projets. C'est pas une question d'accomplir les plans et les projets du monde, ni d'accomplir les plans et les projets du diable. C'est pas ça qu'on veut. On veut le projet de Dieu. Ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Le monde, ils en ont des plans, puis ils essayent souvent dans leur projet de nous mettre des bâtons dans les roues, puis ils essayent de nous bloquer, ils essayent de nous écraser, puis nous dire des paroles qui vont nous jeter à terre, puis nous... Non, Dieu, lui, il veut nous relever, il veut nous guérir, il veut nous délivrer, il veut nous restaurer, il veut nous équiper, il veut nous donner tout ce qui est nécessaire pour notre marche dans notre communion avec lui, puis il veut qu'on devienne plein de fruits, puis il veut que notre fruit demeure, puis il veut qu'on en profite pour toute l'éternité. Dieu a un projet grandiose pour chacun de vous à partir du moment où vous êtes prêts à vouloir entrer dans son projet. Sais-tu que Dieu, il te connaît depuis ta formation dans le ventre de ta mère? Il y a un verset qu'il dit dans le psaume 139, le verset 13 à 16. Ça dit, c'est comme si quelqu'un parle à Dieu, puis il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit, tes œuvres sont admirables, puis mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Celui qui a parlé cette prière-là à Dieu, c'est une révélation qu'il y a eu pour nous faire comprendre que depuis qu'on est au monde, même pas au monde, on n'était même pas formé, on était une masse informe. On était comme juste un ovule fécondé, là, puis ça venait de commencer. Dieu nous voyait déjà dans le ventre de notre mère. Dieu, c'est lui qui nous a tissés, qui nous a formés, qui nous a donné nos membres, qui a toujours été là à nous regarder puis à nous développer dans le ventre de notre mère. C'est lui qui... on n'était même pas encore formés, qu'il y avait déjà dans sa tête des plans pour toute notre vie. Puis Dieu avait des plans de bonheur, puis il voulait nous donner de la joie dans notre cœur, il voulait nous bénir, prendre soin de nous. Dieu a des projets pour chaque bébé qui est au monde. Puis même avant même qu'il soit au monde, Dieu a des projets. Dieu, il est attentionné à ses créatures. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Dieu nous aime. Puis il y en a qui disent, ouais, ben mes parents, ils m'ont rejeté, mes parents, ils voulaient pas de moi. J'étais une erreur. Ils m'ont dit que j'étais une erreur, qu'ils n'ont pas été capables de s'abstenir. Puis là, oups, ils ont, par erreur, je dirais pas les détails. Puis là, ma mère est tombée enceinte. Puis j'ai jamais été accepté, j'ai jamais été désiré. Mais depuis que tu es dans le ventre de ta mère, Dieu t'aime, puis Dieu s'inquiète de toi, puis Dieu a des plans pour ta vie, puis t'es pas une erreur. T'es pas le fruit de par hasard que t'es arrivé là, puis t'étais pas supposé d'être là. Faut que tu crois que Dieu t'aimait depuis que t'es dans un ovule fécondé, puis t'as commencé à te développer en fœtus. Dieu avait déjà des projets pour ta vie, puis il savait que tu serais là aujourd'hui en train d'entendre sa parole, puis à se révéler à toi pour que tu puisses le connaître. Puis Dieu t'aimait depuis ce temps-là. Même si tes parents t'ont pas donné l'amour, puis l'attention, puis les soins que tu aurais dû avoir, Dieu t'aimait quand même, puis Dieu voulait se révéler à toi. Dans Isaïe, le 44, le verset 2, c'est encore Dieu qui parle. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait. C'est Dieu qui nous a fait. C'est sûr que Dieu s'est servi de notre père et notre mère pour nous faire, ça je suis d'accord. Mais c'est Dieu qui nous a fait. C'est qui a mis l'être humain que vous êtes à l'intérieur de votre corps? C'est Dieu. Depuis le début, il est là, puis il dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Dieu est là depuis le début. C'est pas un mécanisme qui est automatique puis que ça se fait sans Dieu. La vie est créée lorsque Dieu intervient et qu'il souffle le souffle de vie. Il dit, c'est l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé de ta naissance, celui qui est ton soutien. Il dit, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Dieu nous dit, ne crains rien. Dieu nous aime. Dieu veut nous amener à lui. Il veut se révéler à chacun de nous. Il veut nous montrer qu'est-ce qu'il est. Dans ces versets-là, il veut vous montrer qu'il est là, autour de vous, puis il vous connaît plus que vous vous connaissez vous-même. Depuis le début de votre vie, des fois, de ma vie aussi, on vit des choses, puis on réagit dans la vie, puis on comprend pas pourquoi qu'on réagit comme ça, mais Dieu le savait qu'on serait comme ça. Puis les réactions, qui sont dues souvent à des blessures, à des choses qu'on a vécues, du rejet. Il y a toutes sortes de choses qu'on a senties de nos parents, de ceux qui nous entouraient. Le manque d'amour a fait qu'on a poussé croche. Puis des fois aussi, c'est ce que l'ennemi, le diable, a pu faire en nous disant des mensonges dans notre esprit, en nous trompant, en nous mêlant. Puis là, on est comme, on sait pas quoi faire. On se sent perdu, puis on se sent seul, puis là, l'ennemi nous dit, Dieu t'aime pas, ou il va te dire, Dieu existe pas, puis Dieu est pas là, puis là, regarde comment ce que t'es rien qu'un pas bon. Mais l'ennemi en met, sans compter ce que le monde peut mettre. Puis là, on essaye de grandir dans tout cela, puis si on n'a pas la pensée, qu'on n'a pas reçu le message que Dieu nous aimait, on n'a rien pour s'accrocher. On est comme livré à nous-mêmes, puis on se pense seul dans ce monde. Mais j'ai une bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. Parce que le Créateur de toutes choses, il est là à chaque moment, depuis que vous êtes, comme je l'ai dit tantôt, dans le ventre de votre mère. C'est lui qui vous a tissé, c'est lui qui vous a fait, puis il nous a choisi. Si vous vous appelez, le nom que vous vous appelez, si vous avez la personnalité que vous avez, si vous avez votre âme à l'intérieur de votre corps, puis vous réalisez que vous êtes là, c'est pas un hasard. Vous êtes pas un hasard, puis c'est un bad luck dans la nature que vous êtes là, vous étiez pas supposé d'être là. Au contraire, Dieu vous connaît, puis Dieu vous aime. Je dis pas qu'il approuve tout ce qu'on fait. Il approuve pas tout ce qu'on fait. Il approuve pas tout ce qu'on pense. Il approuve pas tout ce qu'on dit. Mais il nous aime. Pourquoi qu'il nous aime? Parce que Dieu, il est amour. Il n'a pas créé sa création juste pour faire des bébelles pour les casser. Il n'est pas animé de haine et de méchanceté. Il a créé le monde avec tout ce qui est renfermé dans ce monde, même les animaux, tout. C'était dans le but des bénis, de faire du bien, aller multiplier, remplissez la terre. Puis tout est à vous, là. Répandez, promenez-vous, profitez de ce que Dieu a créé, la beauté de la création. C'est vrai qu'on est dans un monde où ce que l'ennemi, le diable et le monde détruit tout ce qu'il y a là, puis il change les contextes qu'on vit avec des lois, puis il y a des tyrans, puis là on vit des choses difficiles. C'est vrai que des pays, c'est pas facile à vivre, mais c'était pas le plan de Dieu ça, que ça se passe comme ça. C'est parce que les nations sont livrées à eux-mêmes, puis là il y a des décisions qui se prennent par des méchants puis qui détruisent tout ce que Dieu a fait. Mais Dieu n'avait, quand il a créé toute chose, il dit voilà, tout est très bon, quand Dieu a créé au début de la création. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu a des bénédictions en réserve pour toi parce qu'il t'appelle à lui. Sont prêtes ces bénédictions. Dieu a déjà tout accompli avant même que tu sois au monde, il avait déjà préparé un plan pour ta vie, puis il a des bénédictions à te donner parce qu'il t'appelle. Il t'appelle à être en relation personnelle avec lui, à faire qu'un avec lui, à ce que tu t'approches de lui puis que tu puisses recevoir ces choses. Parce qu'il faut comprendre, on va le comprendre dans la suite de l'étude, qu'on se prive des choses que Dieu veut nous donner parce qu'on l'ignore ou parce qu'on ne marche pas de façon à aller les chercher. Tout s'obtient par la foi. Mais je veux te le dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Mets ta foi en Dieu. Approche-toi de lui. Il veut t'aimer, te montrer qu'il t'aime, puis il veut te bénir en plus de ça. Alors regardez ce beau verset-là, dans Ésaïe 45, le verset 3. Il dit, « Je te donnerai des trésors cachés À qui est-ce qu'il veut nous donner ça? À nous, qui veut s'approcher de lui. Si on veut apprendre à connaître Dieu, puis si on s'approche de lui, Dieu veut nous donner des trésors cachés. Il y en a pour moi, puis il y en a pour chacun de vous. Des richesses enfouies. Pourquoi il dit que c'est caché puis c'est enfoui? C'est parce qu'on est ignorant de ce qu'il y a pour préparer pour nous. On n'est pas au courant de ses promesses. Dans la Bible, c'est plein de promesses. Dieu veut intervenir pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous remplir, puis nous changer, nous modeler, nous transformer. Il veut nous amener à être comme Jésus. Fait qu'il y en a des beaux cadeaux à nous donner. Des fois, on pense tout de suite, « Ah, oh, moi, je vais avoir une grosse Cadillac. » C'est sûr, peut-être, ça ferait plaisir d'avoir une Cadillac, mais je pense pas que c'est une priorité. Il y a bien d'autres choses qui vont nous rendre heureux sans avoir nécessairement tous les biens qui sont offerts dans ce monde. Il dit dans Ésaïe 45, verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Le Dieu d'Israël pense à vous, il vous aime, il vous appelle par votre nom, puis il vous dit, viens, suis-moi, je t'aime, c'est ça qu'il veut nous dire, je t'aime, puis j'ai beaucoup de belles choses en réserve qui te sont cachées, puis je veux te les donner. Mais il faut croire en ses promesses, frères et sœurs, puis aller obtenir ce que Dieu a pour vous. Dieu connaît tes difficultés, puis il veut que tu saches qu'il vient au secours de ceux qui vont à lui. Des fois, on se dit, j'ai tellement de problèmes, ça va mal. Je suis pas heureux. C'est vrai qu'on n'est pas heureux tout le temps, surtout quand on n'a pas encore découvert Dieu. On est malheureux parce qu'on ne sait pas où s'accrocher. On pense que les pilules vont nous rendre heureux. On pense que le fait d'aller dans les discothèques, ça va nous rendre heureux. Ou de prendre de la drogue, puis de prendre de la boisson, on pense que ça va soulager notre malheur, puis nous rendre heureux. C'est toutes des choses artificielles. Le seul qui peut te rendre heureux, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut intervenir dans ta vie, puis la changer. Il connaît tes difficultés, il connaît tes problèmes, il connaît tes combats, il connaît tes troubles, parce qu'on est troublé, il sait comment est-ce qu'on peut être mêlé, que nos décisions nous font prendre des décisions qui nous aident pas, que des fois ça nous rend pire. Dans le psaume 10, le verset 14, ça nous dit, « Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. » C'est Dieu, il voit la peine et la souffrance que les gens ont. Dieu est pas insensible à la peine et aux souffrances qu'on supporte. Il les connaît, les peines et les souffrances. Il y en a-tu qui ont jamais souffert dans leur vie, qui ont jamais eu de peine? Mais Dieu était là à chaque fois que vous aviez eu de la peine. À chaque fois que vous étiez dans des souffrances, que ce soit par une maladie ou des souffrances émotionnelles, parce que là, on a des chicanes avec quelqu'un, ça on s'accorde pas, peu importe les problèmes, Dieu est témoin de tes souffrances, de tes peines. Dieu voit la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. Dieu veut prendre en main notre cause. C'est une bonne nouvelle. Dieu veut s'occuper de nos peines et nos souffrances. Il dit, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Dieu, il veut intervenir dans nos vies. Le saviez-vous? Dieu veut nous sortir de nos peines, de nos malheurs. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il m'aime, il vous aime. Faut s'accrocher à cette vérité-là, c'est une vérité essentielle pour rentrer à s'approcher de Dieu. Parce que si tu penses pas que Dieu t'aime, tu y demanderas pas. Si tu penses que Dieu il t'haït, puis qu'il t'a rejeté, puis qu'il veut rien savoir de toi, tu t'approcheras pas de lui. Il veut que tu saches aujourd'hui qu'il t'aime, puis qu'il veut s'occuper de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malheureux. Il voit la peine, puis il veut s'en occuper comme si c'était son problème à lui. Parce qu'il nous aime. Dieu entend nos cris, il vient à notre secours. Ça nous le dit dans le psaume 34, le verset 6. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Puis il le sauve de toutes ses détresses. Y a-tu des gens ici qui ont des détresses ce matin? Vous pouvez crier à l'Éternel parce que l'Éternel est témoin de vos souffrances, puis il veut intervenir dans votre vie. Il veut s'occuper de vous. Puis il attend que vous y offrez. Vous dites, Seigneur, prends ma vie, ou prends tel et tel problème dans ma vie, j'ai besoin d'aide. Criez à Dieu, demandez-lui, puis il va le faire. Dieu, là, même malgré la rébellion des nations, là, faut pas se cacher, l'ensemble de la planète est rebelle envers Dieu. Les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils mettent pas leur vie conforme à la parole de Dieu. Puis malgré la rébellion de tout le monde, Dieu les aime quand même, puis Dieu envoie ses bénédictions, puis envoie ses bontés. On voit ça dans Actes 14, le verset 16 et 17. Il dit, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Toutes les nations suivent leur voie, puis suivent leur propre chemin, puis détruisent le passage. » Puis là, Dieu, il n'a pas cessé de rendre témoignage de qui ce qu'il est en faisant du bien, puis en dispensant les pluies puis les saisons fertiles, en donnant la nourriture avec abondance, puis en remplissant vos cœurs de joie. Malgré que les gens sont rebelles, Dieu continue à déverser ses bontés. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Dieu veut qu'on le découvre, il veut qu'on le connaisse dans sa véritable identité. Il veut que tu arrives à comprendre qui est ce Dieu-là. Parce que comme on a dit tantôt, il dit les autres dieux, c'est des idoles. Mais le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui t'a formé. Il n'a pas deux dieux, il n'a pas trois, il n'a pas cinq. Il y a un seul Dieu créateur de toutes choses. Puis, ce Dieu-là, il veut intervenir dans ta vie, puis il veut que tu apprennes à le connaître. Dans Jean 17, 3, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous voulez apprendre à connaître qui est ce Dieu-là? Parce que c'est une bonne question, on veut se le demander, c'est qui ce Dieu-là? Il s'est-tu révélé dans l'histoire? Oui, c'est révélé dans l'histoire. Quand il s'est révélé, allez lire la Bible. Lisez les écrits de l'Ancien Testament. Vous allez voir l'histoire du peuple d'Israël. Puis vous allez voir aussi tout ce que Dieu a fait pour eux. Puis vous allez voir aussi qu'il y a des promesses qui annonçaient un Messie. Jésus est venu, il a accompli les promesses qui étaient écrites à son sujet. Il s'est révélé. Puis là, tous les miracles que Jésus a fait pour démontrer qui ce qu'il était, ce Dieu-là s'est révélé, vous voulez le connaître, tournez-vous vers le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu le Père révélé à travers Jésus-Christ, puis là, vous allez apprendre à connaître qui est le vrai Dieu. Puis vous allez connaître aussi son cœur pour les humains. Ce Dieu-là s'inquiète de ses créatures. Ce Dieu-là aime ses créatures. L'amour de Dieu, Dieu l'a prouvé qu'il nous aimait par la venue de Jésus-Christ. C'est une autre preuve de son amour. Parce que quand on était tous en train de faire notre volonté puis marcher dans la rébellion contre Dieu, Dieu aurait pu dire qu'il s'arrange avec le trouble, puis en plus, qu'un, je vais les écraser, puis je vais le... Non, c'est pas ça que Dieu veut faire. Dieu, il nous aime. Puis envoyer ce qui était plus cher pour lui, son Fils, Jésus-Christ, qui était auprès de lui pendant toute l'éternité. Jésus était avec Dieu le Père, puis le Saint-Esprit aussi, les trois forment qu'un seul Dieu éternel, puis envoyer son Fils en forme humaine, comme un simple homme, pour venir accomplir une mission, venir nous donner la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée, c'est son Fils Jésus-Christ, dans le but de nous racheter, dans le but qu'on soit pardonné de nos péchés. On voit ça dans 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté. La preuve de son amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La Bible nous dit qu'on était tous morts spirituellement. Puis Jésus est venu pour mourir sur la croix puis prendre la place des coupables. Le Créateur, il a accepté de donner sa vie à notre place. Quand Jésus a monté sur la croix, c'était pas pour lui qui montait sa croix. Lui, il aurait pu partir pour monter dans le ciel sans passer par la mort physique. Il était le seul être sans péché. Mais quand Jésus a accepté d'aller sur la croix, il n'aurait pas envoyé des anges pour le délivrer. La Bible, elle dit, il n'aurait pas envoyé 12 légions d'anges. Il aurait massacré tout le monde. Puis il aurait sorti de là sans un égratignure. Mais quand il a accepté de se faire humilier, puis de se faire battre, de se faire cracher dans la face, puis de se faire fouetter, puis de se faire crucifier, c'est parce qu'il nous aimait. Il savait qu'il montait sur la croix à notre place. Lui, l'innocent, il est allé payer pour nous les coupables. Il a accepté de payer la dette de nos péchés à notre place. Y a-t-il une preuve là-dedans de l'amour de Dieu? On voit-tu comment est-ce que Dieu nous a aimés? On méritait rien. Jésus l'a accepté de donner sa vie pour ses amis. Puis on est tous invités au salut de Dieu. On est tous invités, ce que je vous disais tantôt, Dieu a des projets, il y a un avenir, puis il y a des richesses, il y a des trésors cachés qu'il veut nous donner. Il veut nous accompagner, il veut nous bénir, il veut nous aider dans nos détresses. Puis tout ça, on est tous invités à recevoir ces choses. Dans Jean 3,16, ça nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est qui ça, quiconque croit? C'est nous autres, c'est tout le monde. Quiconque, c'est tout le monde. C'est moi, c'est vous, et tout le monde qui sont pas assis ici aujourd'hui, tout le monde de Beauharnois. Quiconque dans Beauharnois, ou même quiconque au Québec, quiconque dans le Canada, quiconque dans le monde entier veut croire en Jésus-Christ qui est mort sur la croix, si tu veux y croire, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut nous donner, la vie éternelle. Il veut pas qu'on périsse, il veut pas que le méchant meure, il veut qu'il change de vie, il veut qu'il vive. Pourquoi qu'on a cette option-là de pouvoir être pardonné puis d'avoir la vie éternelle? C'est parce qu'il nous aime. Amen. Il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Il veut que ses créatures, on vit du bon temps avec le Seigneur quand on est rempli de sa joie, sa paix, puis on est heureux sur la terre. Mais il y a quoi qui s'en vient dans la vie éternelle qui va être encore bien plus grand que tout ça? Quand on va voir Dieu face à face, on va être complètement rempli de sa présence. Justement, j'ai quelques versets à vous lire là-dessus. On va être bien, on va être béni. Il n'y a plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort. C'est le bonheur, la joie, l'amour pour l'éternité. C'est ce qui s'en vient dans l'histoire sans fin. Puis tout ce qu'on a vécu dans notre corps, les souffrances, puis les maladies, puis tous les problèmes, on ne goûtera plus à ces choses-là. Dieu veut essuyer toute larme de nos yeux. Ça va être extraordinaire. Mais déjà, là, en attendant, Dieu dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous faites partie de ces quiconques-là. Jésus a promis une vie abondante à ceux qui répondent à son appel. Dans Jean 10,10, Jésus dit, je suis venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Spirituellement, physiquement, puis matériellement. On manque pas de rien, même si on n'est pas riche comme tous les riches. Mais on a quand même le vêtement, la nourriture, le toit. Bon, y en a qui ont des moyens de transport. On est quand même béni de la part de Dieu. Mais Dieu veut qu'on ait une vie d'abondance. Fait que l'abondance, vous allez l'obtenir, c'est des choses que Dieu a de cacher, qu'il veut révéler, qu'il veut que vous saisissiez par la foi. Puis tout ça, c'est donné à travers Jésus, puis après ça, selon votre foi, vous allez réclamer, puis Dieu va vous bénir. Dieu a de grandes choses pour chacun de vous. Il l'a promis dans l'autre verset, il dit, j'ai des choses cachées, des choses enfouies. Faut que tu les cherches. faut que tu fouilles, puis tu vas les obtenir. Tous ceux qui marchent en communion avec lui, ils expérimentent l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour chacun de vous, mais je suis sûr que vous avez vécu des expériences pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ depuis un certain temps. Vous avez vécu des expériences qui vous démontrent que vous avez goûté l'amour de Dieu. Vous avez vécu des moments dans sa présence quand vous avez prié ou que vous avez loué le Seigneur ou avec des frères et sœurs, puis vous avez ressenti sa présence. La vie chrétienne, c'est pas nécessairement une sensation, mais c'est quand même la joie, la paix par le Saint-Esprit. On le voit aussi dans l'autre verset qu'il y a ici, dans Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La Bible nous dit que quand tu te convertis au Seigneur, quand tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, tu lui donnes ta vie. Là. Tu veux changer de vie, tu veux qu'il agisse dans ta vie, Dieu va pardonner tes péchés parce que Jésus a tout accompli, puis donne le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il rentre en toi. Tu reçois pas ça à la naissance, tu reçois ça au moment que tu réalises que t'es pécheur, tu réalises aussi que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, puis là tu le reçois, tu l'acceptes, puis à ce moment-là, tu reçois le Saint-Esprit, ta vie commence à changer. Il n'y a pas d'âge pour ça. La seule chose que ça prend de la foi, parce qu'il faut que tu croies. Si tu crois pas, tu l'auras pas. Si tu le crois, tu peux le recevoir si tu le demandes. Dieu, une fois qu'il rentre dans ta vie, il va commencer à la changer. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Son Saint-Esprit va te remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Tu vas être en amour avec Dieu, tu vas être en amour avec les frères et sœurs. C'est pas quelque chose que tu avais nécessairement avant d'être chrétien. C'est quelque chose que tu reçois après d'être chrétien. Tu commences à aimer le monde avec l'amour que Jésus aimait. Tu vas commencer à vivre l'amour de Dieu. Tu vas être conscient de plus en plus de l'amour que Dieu a pour toi. Puis tu vas être en amour avec lui. Cet amour-là s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Puis Dieu veut te le donner. Dieu veut, ça fait partie de sa vie d'abondance, d'être rempli de son amour, rempli de sa joie et de sa paix. Dans son amour, Dieu il a préparé un avenir pour chacun de nous. Je vous l'ai dit au début, mais je vais vous donner un verset, là. Dans cet avenir-là, c'est une demeure éternelle pour ceux qui croient en lui. Dieu, il est en train de préparer une demeure éternelle. Il dit, je m'en vais. Il a dit ça à ses disciples, Jésus. Je m'en vais, puis je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette demeure-là, mais je vais vous donner juste quelques versets. Je rentre pas en profondeur pour vous expliquer tout ce qu'il y a là-dessus, mais ça va vous donner une vision, une pensée sur c'est quoi la ville où ce qu'on va vivre dans le ciel. Le paradis, le ciel, ça existe, puis on s'en va vers là. Apocalypse 21, les versets de 1 à 4. Ça va avoir quelques versets, je n'explique pas tout, parce que à un moment donné, si Dieu le permet, j'amènerai plus en profondeur cette étude-là. Mais Apocalypse 21, 1 à 4, ça nous dit que « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ce que vous devez savoir, il va arriver un jour où ce que le ciel puis la terre qu'on connaît aujourd'hui va disparaître. Dieu va rouler sa création, il va tout enlever, puis il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que la terre d'à présent, elle a été maudite, puis c'est appelé à disparaître. Il n'y a pas juste un verset qui le dit, mais ce verset-là le dit. Au verset 1, ça dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, puis la mer n'était plus. » Fait qu'il va avoir une nouvelle terre, puis il n'y aura pas d'océan. Puis ça nous dit au verset 2, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. » Sur, dans cette nouvelle terre-là, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre, puis il y a une ville sainte qui va descendre. La nouvelle Jérusalem, c'est la ville où ce qu'on s'en va. est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ça dit, verset 3, « J'entendis du trône de Dieu, une voix forte qui disait, « Voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Dans cette ville sainte-là, on va être en contact permanence avec Dieu. On va voir Dieu. Dieu va venir habiter avec nous, puis nous, on va habiter avec lui. Puis on va vivre une histoire sans fin dans cette immense ville-là. Verset 4, « Il essuiera toutes les larmes de nos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans cette nouvelle ville-là, ça c'est après qu'on soit ressuscité et qu'on soit dans notre corps céleste, quand on va rentrer dans la vie éternelle, on va être dans cette ville-là, puis il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort, plus de larmes. On va vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Puis là, je vous décrirai toutes les comment que ça va être beau, cette ville-là, la Bible en parle. La ville a la gloire de Dieu. Elle rayonne de lumière. Il n'y a même pas besoin de soleil pour l'éclairer. C'est Dieu lui-même qui éclaire cette ville. Ça dit que les murs, c'est du cristal transparent, parce que la lumière traverse le cristal. Les portes, c'est comme des perles. Puis ça nous dit que les rues sont pavées d'or. Puis là, il y a tellement de belles choses. On regardera ça un autre moment. Ça, c'est l'endroit où qu'on s'en va, que Jésus nous a préparé. Puis Jésus appelle les gens à aller à lui. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a des projets, puis un avenir pour chacun de nous. Amen. Des fois, on pense juste au projet terrestre, mais le projet éternel est encore bien plus grand. On va vivre une vie sans fin dans ce royaume-là. Ça va être extraordinaire. Ça dit que les nations vont marcher à sa lumière, puis les rois de la terre y apporteront leur gloire. Puis dans cette ville-là, il y a une source d'eau de la vie qui nous permet de maintenir cette existence éternelle. Puis on est tous appelés aujourd'hui, ceux qui ont soif. Vous pouvez boire de l'eau de la vie éternelle. Vous êtes invités à faire partie de ceux qui vont vivre cette histoire. Voici au verset 6 et 7 de l'Apocalypse 21. Dieu nous appelle à boire de l'eau de la vie gratuitement. Ça coûte rien. C'est par la foi qu'on peut obtenir ces promesses-là. Apocalypse 21, 6, ça nous dit, « Il me dit, c'est fait. » C'est Jésus qui parle. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est pas gratuit parce que ça vaut rien. C'est pas gratuit parce que c'est cheap. C'est gratuit parce qu'on n'aura jamais été capable de se le payer. On n'aura jamais été capable de l'obtenir par nous-mêmes. C'était pas gratuit. C'est parce qu'un autre a payé que ça coûtait pour qu'on puisse le saisir. Cet autre-là, c'est Jésus. Là, Jésus qui a payé pour, t'invite puis dit, viens boire à cette eau. Puis dit, si tu as soif, viens boire, c'est gratuit. Jésus a tout payé pour que tu puisses aller boire gratuitement. Il dit, celui qui va vaincre va hériter de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Voulez-vous être un fils de Dieu? Voulez-vous faire partie de ceux qui vont vivre cette vie éternelle? Dieu veut vous la donner, c'est gratuit. Vous avez quelque chose à faire. Ça répond à l'appel de Dieu. Dieu vous appelle à aller à lui puis le recevoir. Même si c'est gratuit, il faut que tu le prennes. Puis il y a des gestes concrets pour le saisir. C'est par la foi, tu y crois. Tu crois que Dieu t'aime maintenant. Tu crois qu'il t'appelle. Réponds à son appel puis accepte-le comme ton sauveur personnel. C'est pas un hasard que vous soyez assis là aujourd'hui. C'est pas un hasard que des gens ils vont aller sur Internet et ils vont écouter ce message-là. Dieu parle à des cœurs par le message, puis il appelle les gens à venir au salut. Dans Éphésiens 1, 4, ça nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons été choisis. C'est pas un hasard qu'on est assis là. Dieu nous a appelés parce qu'il nous connaissait dès le sein de notre mère, qui a toujours été là, puis il était là tout le long de notre vie, puis il attendait que le jour qu'on réponde à son appel, puis on dit, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir, je veux le pardon que tu m'offres à travers Jésus-Christ. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux obtenir toutes les... cet avenir, cette espérance, toutes tes promesses que tu as pour moi, je veux les avoir. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Je le veux pour moi. À partir du moment que tu le confesses de ta bouche, que tu y crois, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Amen.
Dieu veut donner dès maintenant cette assurance que vous faites partie des élus, puis il veut rentrer dans votre vie pour vous amener à être comme Jésus. Je vous lis un dernier verset. Dieu nous appelle à répondre à sa voix. Dans Isaïe 43, le verset 1, qui nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. » Car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. S'il y en a qui veulent faire la prière de repentance, c'est le temps. Je vais faire une prière avec vous, je vais la dire tout haut. Si vous avez la foi dans votre cœur, vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés, vous croyez que Dieu vous aime et qu'il veut vous pardonner, mais il faut l'accepter. C'est comme quelqu'un qui se dit... moi, je veux me marier avec mon épouse, mais il faut que tu le dises, oui, je le veux, puis elle aussi va le dire, oui, je le veux, puis là, après ça, les vœux ont été faits, là, tu t'es déclaré marié, mais c'est le même avec le Seigneur aussi. Il dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Autant aussi, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à le confesser, à prendre position publiquement. C'est pas une histoire à cachette. Même si on était créé à cachette dans le ventre de notre mère, personne ne nous voyait, puis on a sorti. Mais la vie chrétienne, c'est pas une vie à cachette, c'est une vie en plein jour, en contact avec l'Esprit de Dieu. Puis nos vies sont changées, transformées pour arriver à être de plus en plus comme Jésus. Vous êtes invités aujourd'hui à faire cette prière-là, puis répétez cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu, mais je sais aussi que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je sois pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi dans le chemin de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu. Autant qu'il était là depuis le début, il attendait le moment que tu le confesses de ta bouche, que tu veux le recevoir. Tu es maintenant pardonné de tes péchés. Il t'a donné le Saint-Esprit parce que tu l'as fait sincèrement. Il t'a donné le Saint-Esprit. Maintenant, il y a une nouvelle vie qui commence. Tu es né de nouveau. Marche avec le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre la parole de Dieu. Va sur les sites Internet. Vous pouvez aller sur publicationévangélique.com. Vous allez trouver une foule d'enseignements qui vont vous aider. Puis, lisez la Bible, Priez, restez connectés avec le Seigneur, gardez la foi. Laissez-vous pas voler ce que vous venez de recevoir. Puis je vous encourage à être là aussi la semaine prochaine pour la suite de cette série-là. Je suis sûr que vous allez être bénis dans le restant aussi. Ça va vous apprendre à connaître ce que la Bible dit à propos de Dieu puis de son plan, comment faire pour être sauvé. Que le Seigneur vous bénisse.